bien avec nos parents tout chaussés, à notre façon d'agir, notre façon
seulement.
De...
Vous ne mangerez aucune viande avec son sang, avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi. Je redemanderai le sang de votre vie et je le redemanderai à tout animal. Je redemanderai la vie de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang, si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme. Car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages et je me souviendrai de mon alliance avec moi, entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi toute créature sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Voilà quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commençait à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils se détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce qui lui avait fait son fils cadet et dit, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Noé vécut 350 ans après le déluge, il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. Je vais prier. Prions ensemble. Père Céleste, effectivement, quand nous regardons à notre monde, même parfois quand nous regardons notre vie, on se demande quel espoir. S'il te plaît, aide-nous à mieux comprendre ce qui se passe. Ici, à la fin de ce récit du déluge, montre-nous, s'il te plaît, l'espoir qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Le premier titre pour ce matin, c'est un nouveau départ malgré le péché. Un nouveau départ malgré le péché. Car le verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Et la même phrase revient au verset 7. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Et c'est quasiment une reprise du commandement de Dieu au début de la création. Genèse 1, au commencement, Dieu a dit, au premier homme, à la première femme. Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. La mission que Dieu a donnée à la première femme, au premier homme, au commencement, est ici, donnée à Noé et à sa famille. Toujours créés à l'image de Dieu, ils sont toujours les représentants de Dieu sur terre. Ils sont toujours appelés à remplir la terre, à régner sur la terre sous l'autorité de Dieu, à la gloire de Dieu. Et donc, c'est un nouveau départ, malgré le péché, malgré tout ce qui s'est passé depuis le premier péché, depuis la chute d'Adam et Ève. Le projet de Dieu demeure. De plus, Dieu pourvoit pour les êtres humains. Le commandement de se multiplier implique que la possibilité d'avoir des enfants est toujours à jour. Dieu leur donne à de la nourriture, tous les animaux et toutes les plantes comme nourriture. C'est un nouveau départ malgré le péché. Mais bien sûr, nous voyons aussi des différences depuis Genèse 1, depuis le début. Et ce sont les implications du péché. Le péché, c'est-à-dire l'homme qui ne vit plus en dépendance de Dieu, l'homme qui ne vit plus en obéissance à lui. Nous voyons que maintenant, les animaux auront peur de l'homme. Nous voyons aussi que Dieu agit pour protéger sa création contre la barbarie. C'est comme ça que je comprends les interdictions concernant le sang. La vie est précieuse et doit être protégée. La vie est précieuse. Et si Dieu donne les animaux comme nourriture, les êtres humains doivent quand même montrer un respect pour ces animaux, pour la vie animale. Encore plus, la vie humaine est précieuse. Et donc Dieu demandera la vie de l'homme, à l'homme qui est son frère. Plutôt, dans le récit de Genèse, il y a eu une histoire de vengeance. Un monsieur qui s'appelle Lémec. Il disait que Caïn, qui s'est vengé 7 fois, Lémec allait se venger 77 fois. Ça ne pourra pas continuer ainsi. Et Dieu incite une règle, une vie pour une vie. Dieu pourvoit et il protège. Mais il y a de l'espoir. La vie continue, le projet de Dieu continue. Il y a un nouveau départ malgré le péché. Mais qu'est-ce qui empêche un nouveau déluge, un deuxième déluge avec le péché qui se multiplie? Qu'est-ce qui empêche que Dieu décide encore une fois de faire venir un déluge pour juger le péché des hommes et des femmes? À quoi ça sert de remplir la création si on risque encore un déluge qui va tout remettre à zéro? Il y a de l'espoir avec une nouvelle promesse. Une nouvelle promesse malgré le péché, car généreusement, souverainement, de sa propre initiative, Dieu s'engage à ne plus détruire la terre, toutes les créatures, avec encore un déluge. Lisez avec moi à partir du verset 8, s'il vous plaît. Verset 8, Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre, j'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Alors, alliance, c'est un mot spécial pour décrire une promesse solennelle. On dit que le mariage, c'est une alliance parce que ce sont des promesses entre deux personnes avec un signe de l'alliance. Et ici, nous avons une promesse magnifique à célébrer. Dieu s'engage à ne plus détruire par un déluge. Dieu qui haït le péché, Dieu qui veut justement juger le mal, il aurait bien raison de juger à nouveau par un déluge. Mais ici, Dieu s'engage à ne plus faire venir un déluge. Dieu s'engage à se patienter dans son jugement. Dieu s'engage à se patienter dans son jugement. Les hommes et les femmes peuvent alors vivre, ils peuvent chercher à remplir la terre à la gloire de Dieu sans craindre qu'un nouveau déluge arrive. Et Dieu donne le signe de son alliance, n'est-ce pas? L'arc en ciel comme rappel de cette promesse magnifique. Et la suite de la Bible est ponctuée par beaucoup d'alliances différentes, avec des promesses différentes, des partenaires différents, des signes différents, des conditions différentes. Mais ici, nous avons une alliance inconditionnelle. C'est Dieu qui s'engage. Dieu qui s'engage de sa propre initiative. Et c'est une alliance universelle. Ça concerne toutes les créatures, toute la terre. C'est une alliance éternelle. C'est toujours de l'actualité. Et donc, c'est toujours une promesse à célébrer. Quand nous voyons un arc-en-ciel, nous pouvons remercier Dieu de ce qui n'a pas jugé le monde et son péché par un nouveau déluge. Nous pouvons remercier Dieu pour sa fidélité. Il tient parole. Le refrain à ces derniers chapitres dans Genèse a été que l'orientation du cœur de l'homme est toujours mauvaise. Mais Dieu patiente. Il est miséricordieux. Il ne nous donne pas ce que nous méritons. Et nous pouvons continuer à vivre aujourd'hui par Dieu, pour Dieu. Et ça fait partie de ce que les chrétiens appellent la grâce commune. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces phrases, la grâce commune. Commune, non pas parce que c'est ordinaire ou sans valeur, mais commune parce que ça s'applique à tout le monde. À tout le monde. Nous pouvons tous vivre dans le monde de Dieu sans craindre un nouveau déluge. La vie continue, les jours, les mois, les saisons. Et je vous invite cette semaine à remercier Dieu pour les bonnes choses de la vie, pour la grâce commune, pour la petite monnaie de la vie. S'il te plaît, lovely, Jésus a dit, en effet, Dieu fait lever le sans-soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça montre la bonté de Dieu, la générosité de Dieu. Et nous pouvons lui dire merci. Mais les amis, quand vous voyez ces couleurs, qu'est-ce que ça évoque? Peut-être ces couleurs, en fait, sont importantes pour vous. C'est le symbole du mouvement gay, n'est-ce pas? Souvenons-nous que d'abord, ces couleurs sont le signe de l'alliance entre Dieu et sa création. Souvenons-nous que d'abord, ces couleurs, c'est un symbole de l'alliance entre Dieu et nous, un symbole de la fidélité de Dieu envers nous. Quand nous voyons ces couleurs, est-ce que nous pouvons d'abord penser à la fidélité de Dieu Dieu est miséricordieux, il est patient. Il ne nous donne pas ce que nous ne méritons. Pouvons-nous aussi inculquer la même réflexion chez nos enfants quand ils voient les couleurs de l'arc-en-ciel? Merci, Lovely. Dans tous les cas, ici, dans Genèse 9, il y a de l'espoir malgré le péché. Il y a un nouveau départ, malgré le péché. Il y a une nouvelle promesse à célébrer. Alors, nous pouvons imaginer l'image d'une Bible pour les enfants. Noé et Madame Noé, main dans la main, l'arche et un arc-en-ciel dans l'arrière-plan. Les enfants aussi, les enfants, les animaux qui sortent aussi de l'arche, main dans la main pour remplir la terre. Mais malheureusement, la fin du récit de Noé nous ramène les pieds sur terre. Et ce n'est plus une histoire qui convient à une Bible d'enfant. Et donc, troisième et dernier titre pour ce matin, une nouvelle déception. Une nouvelle déception à cause du péché. Noé commence à cultiver le sol. C'est une bonne chose. Il commence à remplir la création de Dieu. Il plante une vigne. Il profite du fruit de sa vigne. Mais il en profite trop. Et il devient ivre. Il se dénude dans sa tente. Et nous voyons à nouveau que l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise. Dès sa jeunesse, même chez Noé, c'est une nouvelle déception à cause du péché. C'est un petit rappel à nous aussi. Attention, faisons attention à l'alcool. L'alcool peut nous passer dans des situations compromettantes. Les psaumes dans la Bible nous disent « Le vin réjouit le cœur ». Mais les proverbes dans la Bible nous avertissent aussi « Le vin est moqueur ». Les boissons fortes sont bruyantes. Son enivré, les passages. Et Shem, le fils de Noé, il voit tout. Il voit la nudité de son père. Alors, il est possible que nous sommes censés voir plus, que nous sommes censés voir plus d'activités sexuelles incestueuses. Mais ce qui est clair, c'est que au lieu d'agir pour l'honneur de son père, au lieu d'agir pour la modestie de son père, Shem, il ne fait rien. Il sort, il en parle avec ses frères. L'orientation du cœur de l'homme est mauvaise. Shem le démontre, Noé le démontre. C'est une nouvelle déception à cause du péché. Alors, quel espoir? Peu d'espoir. Tel père, tel fils, ça nous donne pas d'espoir pour les générations à venir. Mais les deux autres fils de Noé agissent pour l'honneur et pour la modestie de leur père. Et le narrateur se ralentit pour prendre le temps pour expliquer ce qu'ils font. Sem et Japhet, ils ont marché à reculons afin de ne rien voir et pour couvrir leur père. Et en fait, ici, Sem et Japhet, ils agissent comme Dieu ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après que Adam et Ève, ils ont mangé le fruit interdit, ils reconnaissent avec honte qu'ils sont nus. Ils se cachent de Dieu. Et que fait Dieu? Dieu habille Adam et Ève. Il pourvoit des vêtements pour Adam et Ève, des vêtements de peau d'animaux. Et de la même façon, ici, Sem et Japhet, ils agissent comme Dieu. Ils couvrent la nudité, la honte de leur père. Et donc, dans la suite, Sem et Japhet sont bénis pour leurs actions. Et Shem est maudit. Ou plus précisément, le fils de Shem, Canaan, et maudit. Est-ce que vous avez repéré ça? Est-ce que vous avez repéré ça? La malédiction n'est pas directement pour Cham, mais c'est pour Canaan. Deux fois dans le texte, c'est souligné que Cham est le père de Canaan, au verset 18 et aussi au verset 22. Et puis au verset 25, maudit soit Canaan. Encore une fois, le verset 26, que Canaan soit son esclave. Et au verset 27, que Canaan soit son esclave. Alors pourquoi est-ce que Noé maudit le fils de Cham, Canaan? Pas facile à tout expliquer dans ce chapitre. Peut-être parce que Dieu venait de bénir les trois fils de Noé. Pas de sens à maudire ses fils si bientôt. Ou peut-être la malédiction reflète la faute. Comme la faute a été entre un père et son fils, Noé et Cham, la malédiction est entre un père et son fils, Cham et son fils Canaan. Pas facile à tout expliquer. Mais le nom de Canaan va résonner chez les Israélites. Okay? Donc des centaines d'années plus tard, la nation d'Israël est sortie de l'Égypte et est sur le point de rentrer dans la terre promise, dans le pays de Canaan. Le pays de Canaan. Et la nation d'Israël est appelée à ne pas suivre les pratiques des peuples de Canaan. Et même, la nation d'Israël est appelée à juger les Canaan. Et quand la nation d'Israël arrive pour rentrer dans la terre promise, la nation d'Israël devrait regarder les pratiques, les coutumes des peuples de Canaan et se dire, OK, tel père, tel fils. Les coutumes de ceux qui habitent en Canaan ont commencé ici avec Cham. Et les Israélites devraient prendre note pour ne pas suivre ce qui se fait dans le pays de Canaan. Mais Dieu allait même utiliser Israël pour juger les peuples de Canaan. J'ai fait un petit arbre généalogique. Mais puis, si on peut aller cliquer encore une fois. Donc, nous avons la nation de Canaan, les peuples de Canaan, tel père, tel fils qui continue dans le péché. Mais en fait, bien que Israël soit descendu de Sem qui a bien agi, Israël est aussi descendu de Noé, qui s'est enivré et qui s'est exposé. Et Israël est aussi descendu d'Adam, le premier, à rebeller contre le commandement de Dieu. Tel père, tel fils, quel espoir d'Israël, quel espoir pour Israël. Il devait chercher une solution plus profonde pour le péché. Israël, avec leur histoire, avec leurs ancêtres, ils devaient chercher une solution plus profonde au péché. Et quel espoir pour nous, si nous sommes conscients de nos fautes, que ce soit avec l'alcool, la sexualité, si nous voyons les fautes de nos parents et nous craignons les répéter, quel espoir. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Dans la Genèse, nous cherchons toujours la descendante qui va écraser la tête du serpent. Nous cherchons toujours celui qui va mettre fin au mal et au péché. Et à partir de ce chapitre, nous allons suivre la lignée de Sem. Et quelques chapitres plus tard, on va rencontrer Abraham. Et avec Abraham, il y aura une nouvelle alliance. Et encore une alliance inconditionnelle. Et même une alliance universel. Parce que Dieu promet de bénir toutes les nations de la terre, toutes les nations de la terre, au travers d'Abraham. Et puis, encore plus tard, nous rencontrons Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ, descendant d'Abraham, de Sem, de Noé, mais à la différence de Sem, Noé, Adam, Jésus a toujours parfaitement obéi à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu. Jésus a toujours parfaitement obéi à la volonté de son Père céleste. Et par la foi en Jésus-Christ, nous faisons partie de la nouvelle famille de Jésus. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes unis avec Jésus. Et la vie parfaite de Jésus couvre notre honte, couvre notre péché. Comme Sem et Japhet, comme ils ont couvert la honte, la nudité, faute de Noé, la vie parfaite de Jésus couvre notre honte, notre péché. Et puis, Jésus transforme aussi notre cœur, Jésus nous transforme pour ressembler de plus en plus à son image. Et donc voici la solution plus profonde au péché dont nous avons besoin. C'est comme si nous changeons d'arbre généalogique. Celui qui a mis sa foi en Jésus n'est plus de la famille d'Adam, de Noé, mais il fait partie de la famille de Jésus, de la descendance de Jésus, Jésus qui a parfaitement obéi à Dieu et Jésus qui couvre notre faute avec sa vie parfaite et Jésus qui nous transforme pour ressembler de plus en plus à son image. Et c'est vrai pour nous, c'est vrai pour vous ce matin. Si vous avez mis votre confiance en Jésus ce matin, Jésus a couvert notre péché, a couvert notre honte. Il nous transforme pour être à son image parfaite. Et donc, après avoir parlé de la grâce commune, ici nous avons, si vous voulez, la grâce spéciale, la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Comme la grâce commune, c'est une grâce que nous ne méritons pas. Mais à la différence de la grâce commune, c'est une grâce qui n'est pas universelle. Il faut accepter par la foi en Jésus-Christ. Alors, tel père, tel fils, peut-être grâce à la possibilité de mettre notre confiance en Jésus et faire partie de cette nouvelle descendance, peut-être nous pouvons dire tel Jésus, tel chrétien, telle chrétienne. Je vais prier pour finir.